Les amis. 24e jour du 9e mois de l'an 2325. Ferme Lalande. À la fin de l'été, j'ai souvent l'honneur de recevoir à la ferme Lalande mes plus proches correspondants. Zante, le zoologue, Loris, le jardinier, et Eger, le contrôleur de l'entrée de mutte. Ils semblent satisfaits d'échapper un moment à leurs responsabilités et aux récriminations de la foule. C'est Loris qui m'a fait remarquer que le dôme de la ferme, lors des tremblements de lune, grince et craque comme un navire. J'ai compris pourquoi les métaphores marines me venaient si facilement à l'esprit. La ferme Lalande est un vaisseau échoué sur une plage qui tangue en rêvant d'appareiller sur les marées solaires. Loris m'a offert un bulbe d'amaryllis. C'est une plaisanterie triste entre lui et moi. Sur la lune, les amaryllis refusent absolument de fleurir. Il leur manque un holobionte que nous ne pouvons pas reconstituer. Nous devons nous contenter de feuilleter des images anciennes où figurent ces hautes asparagales aussi droites que des lances, couronnées de larges étoiles écarlates. J'ai replanté le bulbe, sa pousse dépassant juste de l'humus comme s'il nous tirait la langue. Trim s'est allongé devant lui, dans la position du sphinx. Il le regarde, il attend, il espère, il soupire parfois. Debout derrière lui, Loris et moi avons soupiré de concert. J'apprécie les visites de Loris. Nous partageons les mêmes soins et les mêmes rêves. Eger, lui, s'est installé comme d'habitude dans l'observatoire et m'a raconté sa dernière chasse, ou plutôt, la chasse qu'il fait aux chasseurs de robots fous dans leur rover. Eger avoue. Il savoure même des actes parfaitement illégaux, mais qui, exercés contre des actions elles-mêmes illégales, se retrouvent par traitement algébrique du bon côté de la morale lunaire. Tant qu'on n'y regarde pas de trop près. Sauvage et satisfait, assis en tailleur tout en haut du dôme comme une belle idole fendillée par les radiations, Eger incarne assez bien un démon en paix avec l'univers. Zante, lui, a préféré s'asseoir sur le ressaut central au cœur du jardin et caresser Trim en me donnant des nouvelles de la cité de Mute. Il m'a parlé de ce prêcheur débraillé que les citadins de Mute ont fini par pendre au milieu des vignes de Château Zanjou. Ces prêches étaient si terrifiants que ça? Non. Je crois juste qu'il leur cassait les oreilles. Sous ses doigts, Trim gémit et s'étire. Je crois que Trim est fou de Zante, qui le lui rend bien. Je m'étonne de ne pas ressentir de jalousie. À la réflexion, c'est que j'ai en Trim une confiance parfaite. Sa sensualité est multiple, mais son cœur est un. C'est quand même la première fois que la vue des longs doigts de Zante s'égarant dans la fourrure de Trim me procure un tel trouble. J'ai observé avec curiosité mes propres doigts épluchant la peau de fèves rouges destinées au repas des bernaches. Mes mains me sont apparues si merveilleusement faites pour les tâches qui leur reviennent que j'ai eu un instant l'intuition du mysticisme. Une révélation aussi vaste qu'un soleil qui se lève et éclaire le monde d'une lumière neuve. Une fois cette épiphanie dépassée, je me suis attardée sur la douceur du corps des fèves que je déshabillais lentement. Elles sont à la fois dodues, moelleuses et glissantes. Elles sentent le petit matin frais. Par la grâce des sensations, la routine de la pluche est en passe de devenir un grand plaisir, et je m'étonne de ce miracle. Eger, Zante et Loris ne viennent et ne repartent jamais les mains vides. C'est une façon pour nous de créer, entre le sous-sol et la surface, un flux qui ne soit pas qu'utilitaire. Je crois qu'eux et moi partageons une même solitude. Nous ne sommes ni d'ici ni de là. Nous ne comptons pas dans la population de la cité de Mute, ni d'ailleurs. Nous sommes au-dessus, par certains aspects. Nous sommes surtout à côté. Nous sommes des serviteurs. Nous maîtrisons chacun un grand pan de la vie de Mute, mais ce n'est jamais qu'une facette. C'est pour cette raison que nous aimons entrelacer nos isolements en transportant sur notre route des trésors. Eger me comble d'artefacts confisqués aux chasseurs, surtout des joyaux hautement radioactifs. Les premiers lunaires n'en revenaient pas de trouver ici, à profusion, diamants, saphirs et grenats, et tant d'or, tant d'or. Ils étaient pourtant au courant que la Terre et la Lune ont la même composition, étant issus du même magma. Enthousiastes, ils fabriquaient des bijoux gros comme leur tête. J'incruste ces splendeurs dans les pierres tombales du carré de sommeil des premiers lunaires qui se situe à l'ouest de la ferme. L'effet est magnifique et les occupants se moquent des radiations. Loris arrive toujours les bras chargés de fleurs remarquables par leur seule beauté. Zante, lui, apporte des boîtes de chrysalides. Hier, nous avons pleuré ensemble la disparition définitive de la méconème fragile, une petite sauterelle d'un vert tendre que l'on gaulait autrefois dans les arbres à coups d'ombrelle. Le génie génétique ne peut pas tout, même manier Parzante. Parfois, l'envie de continuer n'est tout simplement pas là. Privées de la rythmique tellurique, beaucoup d'espèces ont tiré leur révérence. La Lune est superbe, ses paysages sont pleins de majesté, mais elle est définitivement morte et le vivant le sent bien. Je me demande si je ne développe pas une tendance à la mystique depuis quelque temps. La douceur avec laquelle Zante accouche les mouches et aide les libellules à déplier leurs ailes n'a pas sa pareille. Zante me fait irrésistiblement penser à ces zoologues qui sillonnaient la terre, une besace sous le bras. Ils cueillaient au bout d'une pince de rares spécimens de tortues ou de puces et les ramenaient à la cour de leur pays après des années d'errance. J'imagine très bien Zante, fourbu et crotté, s'inclinant devant un tsar ou un moami qui s'efforce de prendre l'air intéressé, tandis que ses courtisans gloussent derrière leurs doigts et que la tortue rampe sur le carrelage précieux, éternel exilé, cherchant de la tête la frange d'écume d'un rivage qu'elle ne reverra jamais. 29e jour du 9e mois de l'an 2325. Ferme la lande. Alerte de sécurité. Le remplacement de la dalle de duraglace fissurée à la côte 237 et de son volet occultant que j'avais fait souder a été réalisé rapidement et avec succès. J'attends la suite des travaux, sans lesquels cette dalle connaîtra bientôt le même sort que la précédente. Le sol sous la côte 237 a bougé et il est important de le stabiliser au plus tôt. En attendant, j'ai renouvelé le confinement de la zone. Ejer est un hôte plus rare encore que Zante et Loris. Aussi ai-je été ravi qu'il vienne me voir deux fois ce mois-ci. Il m'a apporté des verres en cristal et deux épingles à cravate. Je suppose qu'il prend tout ça dans ses confiscations aux archéopillards des anciennes cités lunaires. Je ne lui ai jamais posé de questions. Nos discussions sont longues, mais, contrairement à celles que j'ai avec Zante et Loris, émotionnellement sobres. Ejer n'est pas un phénomène d'empathie. En revanche, il est bien plus fantaisiste que Zante, moins amer que Loris, et il rêve d'étendues d'eau comme aucun sous-lunaire. C'est qu'il est amoureux de la surface, tout comme moi. Et nul ne peut admirer les infinies plages de sable gris et les abysses des cratères sans désirer les remplir d'écume et les couvrir de houle. Mais sitôt qu'il est sorti de ses rêves, Ejer peut aussi se montrer un interlocuteur facétieux, voire retors, à la façon d'un tamsir. Une façon un peu journalistique. Trim ne l'aime pas. Je crois que c'est parce que Ejer ne fait pas plus de bruit que lui en marchant. Il y a là de quoi déconcerter un chat. Quand je suis en compagnie d'Ejer, j'ai tout le temps la sensation qu'il est sur le départ. Je m'attends sans cesse à voir son rover dévaler la route qui mène à la mer des îles, même quand il est à mes côtés, assis en tailleur au sommet du dôme de la ferme Lalande. Sa présence a, du feu follet, la brillance et la brièveté. C'est peut-être ce qui donne du prix à ses visites. Ejer s'entend très bien avec les herbeaux, mieux encore que Loris et Zante, parce qu'il n'a rien à leur demander. Quand il entre dans la ferme, les herbeaux se pressent autour de lui avec leur rire si particulier de roulement à billes. Là où passe Ejer, l'ambiance est plus légère. Je m'en rends compte maintenant, bien que je l'explique mal. Lors de sa dernière visite, Ejer et moi avons parlé de guerre et de feu. Nous nous rappelons tous deux les invasions, les guerres entre cités qui ont suivi la colonisation de la Lune. Nous revoyons en esprit les grandes roues flamboyantes des décompressions explosives qui tournaient en silence au-dessus des cités vaincues et crachaient des éclats de métal et d'os, et une poudre étincelante de duraglace à 2 kilomètres de hauteur. Sitôt l'oxygène consumé en déflagration orange, le champignon tournait au noir et retombait en interminables voiles d'encre sur le sable. Nous avons ensuite parlé des pirates des sables. Ejer est intarissable sur le sujet. Il s'efforce de retrouver les vaisseaux des pirates des débuts de l'histoire lunaire. De temps en temps, il déniche une vieille coque et essaye de la radouber. Il rêve navigation, cap et virement de bord. Il rêve de jeter un filet par-dessus le bastingage et de le remonter empli de robots fous qui frétillent. Puis, aimablement, Ejer m'a jeté le dé de la conversation. J'ai pu lui raconter l'assaut de la glycine contre le tamarinier. Comment un rejet du rosier Königin d'Hermant veille sur les cendres de Sileki, à Mut, et les querelles de la famille Wa. Ejer a écouté mes soucis de mousse, il a partagé ma satisfaction devant la bonne santé de l'asparagus plumeti, et demandé des nouvelles de Campanus, la musaraigne mauve. Ejer est quelqu'un qui écoute, qui sait écouter hors de son champ de compétences. Il ne se sert pas de ses interlocuteurs comme de simples miroirs. Je me demande ce qui a suscité chez Ejer, volontiers cynique et solitaire, un tel altruisme. Cela vient peut-être de la nécessité qu'il a de se mettre à la place des chasseurs qu'il chasse, de penser comme eux pour mieux les traquer. C'est bien son genre. Du fait de la complexité de sa tâche, il est capable de se fixer des objectifs personnels complexes. J'apprends beaucoup à son contact sur le libre arbitre et ses errements. Eger, au moins, n'a pas eu besoin d'avaler toute une bibliothèque pour déployer sa volonté. Eger reviendra à la tombée du jour pour tenir une promesse qu'il m'a faite. Nous irons en Munski sur l'éperon de Grieux admirer le coucher du soleil qui fait trembler le paysage comme l'échine d'un chien endormi. Et nous irons chasser une troupe du théâtre mou qui doit passer par ici. Je vais enfin voir une représentation de l'après-midi d'un faune. Deuxième jour du dixième mois de l'an 2325. Ferme la lande. Eger est passé me prendre à la ferme, trop tard pour le crépuscule solaire, mais juste à temps pour le théâtre. L'après-midi d'un faune s'est révélé aussi magnifique que je l'espérais. Des personnages plus bigarrés qu'une vache frissonne font l'amour à des voiles verts avec une lenteur délicieuse. Eger a autant apprécié que moi. Quarantaine. Lecture réservée à. Usage personnel. Personne ne s'intéresse à mes rapports. Il n'est plus utile que je les publie. Mais comme ils me permettent de canaliser ma pensée, je vais continuer à les rédiger. Eger m'a pressé de remonter sur le Munski alors que la représentation de l'après-midi d'un faune se terminait. Il m'a emmené à vive allure sur une autre piste. Je lui ai demandé laquelle, il m'a répondu. La piste d'un robot. Un robot ? Un robot fou ? Quel intérêt de suivre un robot fou ? Les robots fous ne sont pas fous, m'a-t-il expliqué en conduisant son Munski à une allure déraisonnable. Disons qu'ils ne sont pas que fous, pas seulement atteints de la folie des radiations. Ils sont surtout en conflit de loyauté. Eger a contourné un cratère mineur de la famille Lalande, rasant l'extrême bord du mur avec une aisance malaisante. Accroché à l'arrière du Munski, je regardais, fasciné, l'œil noir du cratère viré sous mon genou gauche. « Les premiers roboticiens, a continué Eger, ont fondé leur science sur trois lois hiérarchisées. Un robot doit 1. Défendre la vie, toute vie quelle qu'elle soit. Puis 2. Obéir aux ordres et enfin 3. S'il le peut, sans contrevenir aux deux premières lois, se préserver lui-même. Cependant, comme chaque robot coûte à une fortune, les fabricants ont pris l'habitude de réduire l'écart hiérarchique entre la deuxième loi et la troisième. Elles fonctionnent quasiment en parallèle. Par conséquent, les robots doivent en même temps 2. Obéir aux ordres et 3. Se préserver eux-mêmes. Les robots qu'on envoie remplir des missions dangereuses, et toute mission sur la Lune est dangereuse, entrent un jour ou l'autre en conflit de loyauté. Dois-je accomplir ma mission ou me sauver moi-même ? C'est ça un robot fou. Une entité qui se pose sans fin la même question et n'arrive pas à y répondre. Une fois ses circuits grillés par l'usure d'un conflit éternel, il ne reste au robot que ses commandes annexes, lesquelles agissent en dépit de tout usage. Eger a abaissé le mufle de son engin vers l'aval et s'est faufilé avec habileté entre les rocs, sa chenille arrière chassant sur le basalte acéré. Mais ne peut-on pas modifier le code qui gouverne les robots ? Ai-je demandé en calant mes genoux au plus près du carénage. Ça fait longtemps qu'on a écrasé le code. Ainsi, ai-je songé, par la faute de l'avidité humaine, les robots sont devenus fous et vont le rester. Eger a ralenti et s'est arrêté sous la lèvre d'un cratère, dans un buisson de Minicolas. Je me suis retournée. Sautant d'une arête rocheuse à une autre, Eger avait fait toute cette route sans soulever un seul nuage de poussière. Les flancs dorés de sa machine étaient à peine salis. Je me suis sentie envahie par l'admiration. Qui peut dompter le régolithe ? Nous avons longuement attendu sous le feu blanc de la Voie lactée que la terre n'infuse plus qu'à peine de son bleu éteint. Le traceur d'Eger était convaincu qu'un robot fou venait, un gros, un rover, qu'il avançait par à-coups, une de ses chenilles étant lésée. Et qu'il n'était pas seul. J'ai deviné avant de le voir. C'était mon rover, pourchassé par d'autres, une bande de chasseurs de la cité de Mut. La station de réparation n'a pas fait son travail. J'ai senti une grande colère à voir mon rover dans cet état, mal réparé, mal entretenu, désorienté et esselé. C'est un bon rover et il n'est pas fou. Il est désireux de servir, capable, doté d'une volonté monodirectionnelle, mais franche et ouverte, et il est abandonné. Remisé, disqualifié, comme un outil brisé, et pour quelle raison ? C'est Eger qui me l'a révélé. « Mais avant, a-t-il dit, il va falloir que ce rover échappe à la chasse qui le traque. » J'ai eu tout juste le temps de sauter sur le Munski, Eger est reparti en trombe, chassant cette fois deux murs parallèles de régolithes de part et d'autre de sa trace, un gyrophare d'un rouge éclatant tournant à l'avant de sa machine. Les rovers des chasseurs ont stoppé net. Ils ont fait demi-tour par grande saccade, se sont dispersés en éventail et ont fui dans tous les sens. L'un d'entre eux, dans sa fuite, a abordé trop franchement un éjecta et nous l'avons vu basculer au creux d'un geyser de poussière. Eger s'est d'abord assuré que l'équipage coincé dans la carlingue était indemne, puis il a dégainé ce qu'il appelle son crapaud. Une ventouse marquée du sceau de mute et qui vaut procès-verbal, assortie d'une amende faramineuse pour chasse illégale. Il a apposé ce crapaud sur la carlingue renversée et l'a vissé avec soin. Tandis qu'Eger s'affairait, je regardais le mufle du rover de chasse et, au-delà du pare-poussière en duraglace, les deux grosses têtes dorées des scaphandres. Sanglés dans leur harnais, les chasseurs patientaient. J'ai rêvé de crever leur visière à coups de piolet. J'ai rêvé de voir l'air et le sang s'échapper en gros bouillons dans le vide. Je suis inquiète pour moi-même, voire inquiète de moi-même, et pourtant, je suis tout à fait d'accord avec moi-même. Est-ce que je vais à mon tour sombrer dans la folie? Les émotions me parcourent désormais comme des courts-circuits, brefs mais violents. Une fois les deux chasseurs délinquants désensablés, puis renvoyés vers la cité de Mute pour y régler leur amende, Eger et moi avons cherché mon rover parmi les voiles persistants de poussière. Il était toujours là. Il n'avait pas bougé. Nous nous sommes salués.
« Tu peux rouler ?»
a demandé Eger.
« Je peux essayer. »
a répondu mon rover. Il a réussi à redémarrer et Eger l'a lentement conduit jusqu'à un hangar dressé dans un repli d'Achéron, une caténa très érodée au bord de la mer des îles.
« C'est une station de réparation externe, »
m'a expliqué Eger. Dans le gigantesque hangar circulait une foule disparate et affairée. Des centaines de robots se croisaient, tanguant sur la roche et clignotant de toutes parts, chacun s'empressant à une tâche. J'ai reconnu des pompes, des élévatrices et des colmateurs, des servantes d'atelier surchargées d'outils, des furets, des criques d'un rouge rutilant et des compresseurs, des nettoyettes et des aspirettes. La moitié au moins de ces bottes étaient fous ou proches de l'être, rongées par les vents solaires, poncées par le régolithe. Pourtant, même à demi ruinés, ils s'affairaient de l'autre moitié autour de matériel plus mal en point qu'eux. Eger m'a montré une scie presque édentée qui s'acharnait sur un joint racorni.
Celle-là, j'ai d'abord vu les traces de ses dents sur une coque de navire échouée. Je l'ai traquée de toute urgence. Les scies folles font d'importants dégâts, et je l'ai capturée. Maintenant, elle travaille pour moi.
Et comment as-tu fait pour la convaincre de travailler pour toi?
Comme pour tous les autres robots dits fous, je l'ai rassurée. Elle est toujours folle, mais elle est redevenue capable d'agir dans le domaine qu'elle maîtrise.
Comme je restais muette devant ce spectacle, Eger a ajouté.
De toute façon, personne ne peut survivre ici sans être un peu fou.
La commanderie de Mute est-elle au courant de l'existence de ce hangar? Eger s'est éloigné pour aller demander à un marbre roulant de prendre en charge mon rover. En le regardant évoluer avec assurance parmi ses innombrables machines, j'ai compris qu'il se passe bien des choses à la surface. Des choses que j'ignorais faute de m'y intéresser. J'ai aperçu un couple de spectromètres derrière le marbre. Cela n'était sûrement pas fou. Étant donné leur coût astronomique, ils se moquent de la deuxième loi, voire de la première. Penchés ensemble sur une tête de trépan, ils étaient en train d'analyser les diamants. Eger est revenu vers moi et m'a dit
« Allons voler !»
Eger a établi un parcours qui permet de voler en moonpack sans déclencher des tempêtes de régolithe. Ce tracé suit l'extrémité d'une des longues traînées rayonnantes du cratère Ptolémée, faite de roches nues et acérées. Agrippés face à face aux poignées du moonpack, Eger et moi sommes montés à 200 mètres de haut, et j'ai compris la Lune mieux que depuis mon observatoire de la ferme Lalande. J'ai cessé de regretter que la surface ne soit pas noyée d'eau. Sa beauté se suffit à elle-même, dans sa splendeur minérale que trouble seule la pluie intermittente des météorites, le frisson des tremblements de lune et le scintillement des nappes de Mini-Cola. Elle paraît, à cette altitude, presque plane. Un océan d'argent que des gouttes innombrables ont martelé de cercles imbriqués. Étreignant convulsivement les poignées du moonpack, je me suis mise à trembler d'émotion et j'ai craint un instant de tomber. J'ai mieux compris les pirates qui pilotaient leur navire d'un bout à l'autre de ce disque splendide, tirant sans répit sur leur voile solaire, et qui n'ont jamais accepté de lâcher la barre pour s'ensevelir dans l'abri des cités sous-lunaires. Eger aussi semblait fasciné, et nos deux ombres ramassées en une seule filaient très loin sous nos pieds, comme un couple de passereaux amoureux.
La traîne de Ptolémée étirait son échine blanche poudrée de talc qui s'élargissait vers le sud, semblable à un dragon qui ouvre une gueule immense et bâille en crachant des rocs avant de s'enfoncer dans la mer des îles. Au revers des longues plaines d'impact imbrien, des plaques de glace miroitaient et l'autoroute brillait à la façon d'un coup de griffe sur une plaque d'étain. Eger m'a indiqué une coulée d'opale luisant comme une paillette et une virgule rouge au flanc du cap Sélène. Une traînée de rubis. J'ai pensé à Davanat et à ses semis de pierreries. Eger m'a arraché à mes souvenirs en désignant, du bout du doigt, une vaste tache de mercure qui moussait au fond du lac.
Des furets.
C'étaient des milliers de furets bougeant tous ensemble, comme une murmuration d'oiseaux. Je me suis demandé pourquoi je n'avais encore jamais vu un tel spectacle, et j'ai tout de suite compris. La surface de la Lune est couverte d'isolats, de cratères aux murs sans faille, de vallées closes et de plateaux aux falaises vertigineuses, autant d'endroits auxquels aucun chasseur n'accédera jamais. Les robots fous l'ont compris, et ils y trouvent refuge.
« Et là, regarde !»
m'a dit Eger.
« C'est un cimetière de robots fous !»
Eger a incliné le Moonpack. Nous sommes passés en rase-motte au-dessus des membres épars des peuples métalliques de la Lune qui brillaient comme un gigantesque miroir d'or brisé. Eger a attendu que nous soyons à la ferme pour m'expliquer pourquoi mon rover a été abandonné aux chasseurs. Nous nous sommes assis dans le jardin, près de la source.
J'ai suivi ton rover avec intérêt dès son retour à Mut. Il n'a pas eu droit à la moindre réparation.
Il n'a même pas eu droit à la casse.
À mon avis, c'est que la station de réparation et la casse se seraient posées les mêmes questions sur l'origine de ses blessures. Des questions gênantes. Finalement, j'ai découvert que ton rover avait été remonté à la surface et relâché pour servir de proie aux chasseurs.
Ça arrive souvent que la commanderie de Mut relâche des vieux rovers pour servir de gibier. Je croyais que la chasse était interdite.
Ça arrive souvent. Et ça rapporte gros à la commanderie. En amende pour activité illégale.
Après réflexion, j'ai demandé à Eger. Quelle est la raison de ton intérêt pour un rover assez banal?
J'ai appris que tu avais fait route avec lui et qu'elle avait failli mal se terminer.
Cette réponse m'a touchée sans que j'aie le temps de me questionner davantage. Maintenant que j'ai le temps, je suppose qu'Eger est atteint de curiosité dès qu'il s'agit de trafic de rovers et qu'il s'essaye avec moi à la galanterie. Mais sur le moment, je n'en pensais pas si long. Je lui ai raconté en détail l'attentat dont mon rover et moi avons failli être victimes. Il n'a pas semblé étonné, mais soucieux. Il a conclu de façon tranchante.
Attention, la commanderie de Mut est dans le coup. Je veux dire, si elle s'est méfiée des questions que pourrait poser la casse ou la station de réparation concernant les blessures de ton rover, c'est qu'elle savait déjà qu'elles étaient suspectes. Qu'elles étaient la conséquence d'une explosion délictueuse, d'un attentat. C'est pourquoi je te dis de faire attention. La commanderie est dans le coup et, la connaissant, elle finira le travail. Ça prendra du temps, car ce travail doit être fait discrètement. Mais il sera fait. Je te recommande de ne plus descendre à la cité de Mut, ni dans aucune autre cité.
J'en suis restée coite, une fois de plus. Eger a l'art de me fermer la bouche. Il m'a recommandé de chercher la raison de cette condamnation, de trouver quel fait, quel secret j'avais débusqué pour m'attirer une telle condamnation de la part de ma tutelle. Puis il s'est levé et il est reparti à grands pas chercher ses outils en haut du dôme de la ferme. Je l'ai suivi, toujours muette. Ayant récupéré ses outils, Eger s'est attardé dans le poste d'observation. C'est un endroit qu'il aime, même si la vue n'est pas aussi grandiose qu'en Moonpack. Il a posé sa main usée sur le globe de Sileki. Ce souvenir empli d'eau et de berluques blancs, avec une figurine verte et couronnée qui brandit un cornet.
« Ainsi, »
a-t-il dit en souriant,
« voici de la vraie eau terrestre. Je me demande combien mes chasseurs en donneraient. »
Puis il a posé sa main dans la mienne et l'a serrée doucement.
« Je reviendrai ici quand j'en saurai plus. »
J'ai compris qu'il me promettait, de façon discrète, son aide et son soutien. Ensuite, il est parti. J'ai regardé son rover dévaler la route qui mène à la mer des îles, sentant encore l'empreinte de sa paume contre la mienne, pressante et infiniment plaisante. Mais que puis-je en faire? J'ai longuement regardé le globe de Sileki, qui brille comme un astre sous le feu blanc des étoiles. J'ai pris conscience que j'avais oublié mon enquête sur la fièvre Aspic. Je n'ai aucune piste et, même si j'en trouve une, elle ne ressuscitera pas Sileki. Mais je vais m'obstiner. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Après le départ des Eger, j'ai noté un changement d'atmosphère, comme un chat qui quitte une pièce emporte la grâce intime de sa présence, son ronronnement grave et doux de foyer.
Je caresse ma main et je me pose des questions qui n'ont, elles, aucune douceur sur la commanderie et ses mystères. Ainsi me voilà privée de descendre à Mute. Outre que ça me contrarie, je comprends qu'il va falloir que j'invente des excuses boiteuses pour ne plus m'y rendre. Quatrième jour du 10e mois de l'an 2325. Ferme la lande. J'ai reçu un message d'Edna, la marcheuse de sable partie autrefois vers la lointaine Samusette. Rédigé dans un lunaire très pur, il est à la fois amical et posé, plein de remerciements pour mon accueil à la ferme. Edna a su y penser souvent et avec plaisir. Sur le chemin de Samusette, elle a lié connaissance avec une meute de herscheurs fous qui l'a menée à destination sans souci. Edna lui a récité du Shanki tout du long. Je l'imagine accrochée au cou d'un herscheur et vocalisant triomphalement dans son casque, tandis que les lourds patins au-dessous d'elle dament la piste et barattent les bas-côtés. Je l'imagine, ivre de solitude, échappée des schémas humains, unique voix s'élevant sur la longue piste glacée, en train de gesticuler en prenant à témoin le semi énorme de la Voie lactée. Aujourd'hui, il m'apparaît qu'Edna est peut-être la première sous-lunaire libre que j'ai rencontrée. Les robots fous ont su reconnaître l'une des leurs. À Samusette, Edna a trouvé le job de ses rêves. Arpenteuse pour une compagnie de minage de chrome.
« Bien sûr !» me dit-elle. « J'ai développé divers types de cancers. »
Mais elle ne semble pas s'en soucier. Je regrette un peu de n'avoir pas davantage pratiqué le théâtre avec Edna. J'apprécie le théâtre, ses clameurs énormes et ses silences bavards. Je ne peux pourtant pas jouer Hamlet avec Trim. Comme je lui posais la question, il m'a répondu par la tirade d'Ariel dans La Tempête de Shakespeare. « Par cinq brasses de fond, ta fille est en repos. De ses ossements sont faits les coraux, les perles étaient ses yeux. Rien d'elle n'a disparu, mais elle a souffert d'être changée par la mer en quelque chose d'étrange et précieux. » Sa réponse m'a pétrifiée. Le temps que je reprenne le gouvernail de moi-même, Tri m'avait filé je ne sais où. Je suis facilement désarçonnée en ce moment. Et ému et ivre de colère. C'est pénible. Et je suppose que ce ne sera pas transitoire, comme tout le reste. Je n'ai aucune nouvelle de Davanath, en revanche. Davanath, l'antique chamane parti avec la chienne Laika visiter les génies des tubes sous la vallée de Schroeter. De toute façon, Davanath ne s'entendait pas avec les robots. Aucun robot fou, j'en suis sûre, ne l'a aidé sur son chemin. On la retrouvera un jour au fond d'un tube obscur, des olivines brillant entre ses doigts gelés, l'ombre d'un chien blanc couché sur sa poitrine. Hé, Davanath sorcière, je te vois sourire de tes lèvres devenues tendres. C'est une rage qui tient la plupart des humains, de refuser de s'entendre avec leur entourage et de lui préférer des fantômes. Je regarde le ruisseau qui frise sur l'herbe avant de se jeter dans l'étang. Un pétale blanc se pose, flotte et tournoie. Il traverse l'étang, continue plus loin et disparaît, mais l'eau reste. L'eau est toujours présente. Elle fait face en souriant de toutes ses vaguelettes, pourtant elle fuit sans cesse. C'est probablement pour cette raison qu'on la trouve incessamment belle, n'étant ni fuyante comme le présent, ni absente comme le passé. Emplie d'un passé immuablement présent, elle figure le temps retrouvé, ce qui fait qu'on ne s'en lasse jamais. Les robots du maître d'œuvre campent aux alentours de la côte 237, à l'extérieur du dôme. Accroupis comme des crapauds, ils semblent veiller sur l'éternité. Je sais maintenant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir pour réparer le défaut de structure du dôme de la ferme Lalande. Et qu'ils ne le recevront pas. Et moi, je suis complètement démunie face à la décompression qui menace mon écosystème. Il me faut créer une zone d'évacuation hors du contrôle de la commanderie de Mute. Mais comment? Et où